gouvernement et ceux pour qui il travaille tapent une fois de plus sur les services publics dans la continuité des gouvernements libéraux précédents. Dans le projet de loi actuel de destruction de la fonction publique, 120 000 suppressions d'emplois sont à la clé d'ici la fin du quinquennat d'Emmanuel Macron. C'est aussi une attaque du statut des fonctionnaires, avec entre autres un recours aux contractuels facilités. Les conséquences de cette privatisation sont dramatiques, tant pour les gens qui travaillent dans ces services, souffrance, burn-out, que pour les bénéficiaires, c'est-à-dire tout le monde. Les moins riches ne pourront plus se payer des services convenablement, de l'éducation, des soins, des transports, etc. Face à cela, il reste la détermination de milliers de personnes qui s'opposent au démembrement des services publics. Le jeudi 9 mai, de nombreuses travailleuses et travailleurs étaient en grève dans les établissements scolaires, les collectivités territoriales, les hôpitaux, les ports, les casernes de pompiers, etc., etc., et manifestaient dans les rues du pays. C'était ici le cas à Arras, Lens et à Lille où nous avons recueilli la parole de grévistes. On terminera le reportage par un point sur les retraites.
Oui, je m'appelle Pierre Goya, je suis enseignant au lycée professionnel, j'enseigne lettres et littérature et je suis le responsable de la CGT au lycée Voltaire de Vingles. Voilà.
Alors moi je suis Jean-François Carémel. Je suis prof d'histoire géo, je suis militant au SNES-FSU et je suis secrétaire académique du SNES-FSU pour le Nord et le Pas-de-Calais. Voilà.
Alors je suis éducatrice spécialisée en protection judiciaire de l'enfance à la GSS qui est une des grosses associations du Nord qui gère à la fois la protection des mineurs et la protection des majeurs.
Nous on est le centre hospitalier de Jeumont. Près de Maubeuge, on est regroupé sur la GHT, donc groupement des hospitaliers sur le territoire.
Je suis enseignant dans le bassin minier, côté de Brouilly-la-Bussière.
On se rencontre ici à la manif du 9 mai à Lille, qui est une manif générale appelée par les 9 syndicats concernant le projet de loi sur la fonction publique. Est-ce que tu pourrais me parler un peu de ce projet de loi ?
Alors le projet de loi général, ça vise toujours, le gouvernement parle de réforme et en fait il s'agit de contre-réforme qui vise non pas à améliorer le service mais à le dégrader pour faire des économies. Vu qu'il s'est mis dans la seringue en faisant des cadeaux aux plus riches, aujourd'hui il court après les économies partout et notamment dans les services publics. Alors les services publics, c'est le patrimoine de tous et notamment de ceux qui n'en ont pas de patrimoine. Et quand on supprime les services publics, c'est les populations les plus faibles, les plus fragiles qui en subissent les conséquences en premier, quoi.
Alors dans le projet de loi qui s'appelle « Pour la transformation de l'action publique », nous on dit que c'est pour la destruction des services publics. Hein, on a un gouvernement qui manie la communication de manière très positive. Il y a d'abord la suppression des droits des personnels à être représentés pour leurs opérations de carrière, pour leurs mutations notamment. C'est-à-dire que ce qu'on appelle le paritarisme, c'est reconnaître que les élus des personnels ont leur mot à dire sur les opérations de gestion de carrière qui les concernent face à l'administration, à parité. Donc ça, c'est ce qui est prévu, c'est carrément la suppression de ce fonctionnement qui a été acquis après la Seconde Guerre mondiale, en 1946. Ça, c'est quelque chose qui est prévu donc, de supprimer au 1er janvier 2020, très rapidement. Il y a le développement du recours à la précarité pour exercer les missions de service public. C'est-à-dire que là, il est prévu, par exemple, qu'on mette des contractuels sur des emplois qui, normalement, sont prévus pour des titulaires, pour les fonctionnaires qui ont accédé à la fonction publique, donc par concours. Donc c'est une manière de commencer à essayer de mettre en extinction le statut de la fonction publique qui est né après, qui est né donc à la libération. Voilà. Ça.
Une personne sur cinq est déjà contractuelle.
Il y a déjà 20% alors sur l'ensemble des trois versants de la fonction publique, hein, territoriale, État et hospitalière. Et notamment dans la fonction publique d'État, il y a déjà 20% dans l'éducation nationale des agents qui sont contractuels. Ce qui est prévu, c'est d'aller bien au-delà, de manière progressive, mais d'aller bien au-delà et de mettre même des contractuels sur des postes de titulaires et aussi de faire en sorte de pouvoir obliger des fonctionnaires à quitter, à être radiés des cadres, comme on le dit dans le jargon, c'est-à-dire à quitter la fonction publique, ça s'appelle rupture conventionnelle, ce qu'on avait également dans la loi travail, ce qui permettrait de recruter ensuite les gens radiés en tant que contractuels. Donc ça, c'est des dispositions
qui n'étaient pas dans le projet de loi au départ et qui viennent d'être ajoutées, proposées par la commission des lois à l'Assemblée nationale. Ça date de la fin de semaine dernière.
Alors si on est dans la rue aujourd'hui, c'est parce qu'on travaille en lien avec des partenaires des services publics, les hôpitaux, les CMP, les écoles, enfin avec le service public en général, et qu'on a tout intérêt, à la fois en tant que citoyen, mais en tant que professionnel, à défendre notre service public, puisque c'est aussi la base de l'enfance. Nous, on travaille dans la protection de l'enfance et voilà, tout s'articule à partir de là, à mon sens. Eh bien, c'est la privatisation des soins, c'est la privatisation de l'éducation, à savoir que si on a les moyens aujourd'hui, on pourra aller à l'école, on pourra se faire soigner. Si on les a pas, eh bien, on restera sur le bord de la route.
Chez nous, au centre hospitalier de Jeumont, il y a 47% des salariés qui sont en CDD depuis plus de 6, 7, 8, voire 9 ans. On est tributaire de toutes les restrictions budgétaires, on mutualise les besoins et donc on éparpille un petit peu tous les agents, tous les besoins, et nous, en tant que petite section, on est très en souffrance.
C'est-à-dire, ce qu'ils veulent faire apparemment, c'est ouvrir à la concurrence. Bon, ouvrir à la concurrence, on a vu ce que ça donnait avec les télécoms, c'est qu'après, même s'il y a de la concurrence, ils se mettent d'accord, les tarifs augmentent de toute façon, il n'y a plus de régulation, les services ne sont pas forcément meilleurs. Ce qu'ils ont fait avec les autoroutes, même chose, hein, les services se dégradent, les péages sont de plus en plus chers. Donc si tout part dans le privé, qu'est-ce qui va rester, quoi ? Faut savoir que les gens vont devoir payer, non plus par leurs impôts, mais payer directement. Est-ce que ce sera mieux, moins bien ? On ne sait pas. Dans les pays où ça se passe comme ça, bon, y a quand même pas mal d'inégalités, hein, aux États-Unis, en Angleterre. On voit l'éducation aux États-Unis, en Angleterre, ceux qui n'ont pas les moyens, ils vont dans les collèges ou les lycées gratuits, et où on met c'est l'enseignement un petit peu au rabais, quoi.
Peut-être juste pour revenir sur les chiffres, on est 5,5 millions de personnes travaillant dans le service public, donc on parle de service public d'État, ouais. Territorial et hospitalier.
Tout à fait, oui, c'est ça les chiffres. Hein.
Ouais, c'est ça.
Toi, plus spécifiquement au niveau des lycées, et notamment lycées professionnels, est-ce qu'il y a des choses à savoir en particulier ?
Alors pour ce qui est du lycée professionnel, nous aussi on subit ce qu'ils appellent une réforme, qui est encore une fois une contre-réforme. Parce que nous, on réforme le bac pro, qui est là où se trouvent 90% des élèves, à peu près, sont en bac pro. Jusqu'à présent, on avait un système qui était en bac pro en 3 ans, alors qui était extrêmement discuté et discutable, et notamment la CGT, nous, on était contre ce système, j'expliquerai après pourquoi. Et maintenant, on va passer à un bac pro quasiment 2 ans, parce qu'on va avoir une première année un petit peu fourre-tout, où les gamins vont plus ou moins découvrir différents métiers, enfin de façon très très limitée, faut pas rêver. Et ensuite, ils auront 2 ans de véritable formation professionnelle. Déjà en 3 ans, on a du mal à en faire des professionnels, alors en 2 ans, évidemment, ça va être encore plus difficile. C'est une réforme qui vise à faire des économies. Par exemple, on va perdre 300 heures d'enseignement sur les 3 années, c'est-à-dire à peu près une centaine d'heures par an, ce qui revient à 3 heures par semaine. Et en fait, le but, c'est de supprimer 6000 postes d'enseignants de lycée professionnel. Nous, à la CGT, on a calculé. Quand la réforme va rentrer dans 2 ans, 3 ans, sera en terminale, enfin, sera sur les 3 niveaux, on aura 6000 emplois en moins. Voilà. Et je pense que c'est le seul but de la réforme, c'est de supprimer des emplois, parce que nos élèves coûtent cher, effectivement, parce qu'on travaille souvent en petit effectif, parce qu'on a des ateliers, des matériaux lourds qui coûtent souvent assez cher, avec de la matière première qui coûte parfois aussi cher. Nos élèves coûtent plus cher que les enfants des classes supérieures. Je pense que c'est ça le problème. Donc on cherche à faire des économies, encore une fois, sur le dos des enfants des classes populaires et des classes moyennes. Moi, j'ai les enfants des gilets jaunes dans mes classes. Voilà. Et c'est sur le dos de leurs enfants qu'on veut faire des économies, quoi.
Là, c'est vraiment une question de classe.
C'est une question de classe, bien sûr. Parce qu'on ne va pas faire des économies à Henri IV, à Louis-le-Grand, dans les classes préparatoires à l'ENS, ça m'étonnerait. Par contre, on les fait dans les lycées professionnels où sont les enfants des classes populaires. Et c'est un choix de classe, effectivement. Tout à fait. Exactement ça.
Tu travailles dans le secondaire. Est-ce qu'il y a des points un peu que tu pourrais aborder sur ce qui concerne particulièrement le secondaire ?
Alors, ce que connaissent les collègues dans le second degré, d'abord, c'est l'augmentation des effectifs. C'est-à-dire qu'on a des effectifs, la démographie est ascendante et on a des effectifs, on a des suppressions de postes. Donc mécaniquement, il y a une dégradation En plus de cela, alors pour ce qui est du second degré, on a la réforme du lycée et du bac qui est à l'ordre du jour pour la rentrée 2019. Dont on a convaincu nos collègues et l'opinion de l'ADSA qu'on avait affaire à un projet qui était très égalitaire et qui a été conçu pour faire des économies. C'est-à-dire que sur la réforme du lycée, par exemple, le ministre promettait de supprimer les séries, parce qu'il venait arracher des séries, c'était son argument de vente. Et là, on se rend compte maintenant que bien les séries ont disparu, mais en fait, elles sont reconstituées dans les établissements. On reconstitue ce qui existait avant, sauf qu'on a moins de postes, on a moins d'heures. On fera avec moins. Voilà, donc ça, c'est quelque chose de fort. Et plus globalement, dans le second degré et dans l'ensemble des services publics, hein, on a le développement de ce qu'on appelle le management par la performance. C'est-à-dire qu'on essaie de faire rentrer dans les têtes l'idée qu'il faut des résultats chiffrés et que si les résultats chiffrés, les taux de réussite aux examens, par exemple, hein, ne sont pas atteints, alors il faut changer de manière de travailler et on veut nous imposer des façons de travailler qui ne correspondent en rien à la manière dont nous, on conçoit nos métiers dans les établissements. C'est-à-dire travailler, faire ce qu'on appelle la politique du chiffre. Là, en ce moment, il y a le procès France Télécom. On a vu ce que ça pouvait donner, le management pour la performance. Eh bien, ça interpelle beaucoup les collègues de voir qu'on a poussé les gens à bout et que certains en sont venus à l'extrême et à commettre des tentatives de suicide. Alors nous, dans l'éducation, on est face à des gens, on voit un phénomène, on voit les risques psychosociaux qui se développent, on voit de plus en plus de burn-out. C'est quelque chose qui devient, tristement, hein, malheureusement, qui devient très fréquent, quasiment habituel. Dans chaque établissement, tout le monde connaît quelqu'un qui a fait un burn-out ou qui est en train de faire un burn-out, qui n'est pas là et qui souffre. Donc ça, c'est pas depuis 2 ans, parce que ce genre de choses est engagé depuis une bonne dizaine d'années. Mais on est en phase d'accélération. C'est-à-dire qu'avec Blanquer, par exemple, il est prévu dans le projet de loi Blanquer une sorte de conseil qui va travailler sur les résultats des établissements et proposer des méthodes, des méthodologies pour atteindre les objectifs. Il est prévu que tous les 3 ans, il y ait des audits d'établissement et qu'on mette les personnels devant les résultats de l'établissement et qu'on les responsabilise, c'est-à-dire qu'on leur dira, ben voilà, vous êtes à tel niveau, vous devriez être au-dessus, vous allez nous dire comment vous allez faire, et si vous ne savez pas, nous, on va vous dire comment vous allez travailler. Donc ça, c'est vraiment le cœur du projet Blanquer, c'est ça, c'est de mettre au pas les établissements, les personnels, dans une perspective d'efficacité au sens économique. Et ça, c'est extrêmement violent pour des gens qui s'engagent pour faire réussir des élèves qui ne conçoivent pas du tout les choses de cette façon. C'est très, très mal perçu.
Voilà. Alors nous, on vit ça dans nos pratiques quotidiennes en tant que dans l'éducation spécialisée parce qu'on a affaire à des publics qui sont très précarisés et qui, du coup, ont plus déjà accès à pas mal de choses. Et c'est dramatique parce qu'on laisse déjà sur le bord de la route dans nos pratiques pas mal de gens. Et on a des professionnels aussi qui sont en grande souffrance. On parle beaucoup des soignants dans les hôpitaux qui sont en souffrance, mais dans nos structures aussi. Y compris les personnels du département, mais dans les associations, loi 1901, les associations à but non lucratif, on a énormément de salariés qui sont en situation de souffrance et en burn-out et qui n'arrivent plus à assumer leur mission en phase avec leurs idées, enfin le pourquoi ils ont fait ce métier, et ça devient de plus en plus compliqué et dramatique. En fait.
Par rapport à ces contre-réformes dont tu parles, quelles sont les possibilités que vous avez, vous, en tant que personne qui travaillez dans ces établissements ?
Alors, déjà, faire grève, je pense que c'est la première. Tant qu'on a encore le droit, profitons-en. Donc, déjà, c'est se manifester dans la rue, faire grève, se manifester dans la rue contre la réforme. Après, aujourd'hui, le problème, c'est que les collègues sont plutôt résignés. Il faut bien dire les choses comme elles sont. C'est-à-dire que ça fait tellement longtemps qu'on se mobilise et qu'on gagne rien. On a des gouvernements qui roulent les mécaniques. Ah, nous, on lâche pas, nous, on lâche pas. Et après, c'est ça qui provoque la violence. Quand on a affaire à de véritables murs, au bout d'un moment, quand ça déborde, ça déborde. Hein. C'était Brecht qui parlait de la violence du fleuve qui déborde, mais c'est surtout la violence des rives qui l'enserrent. Et plus les rives sont étroites, et plus la violence du fleuve est importante quand ça déborde. Quoi. On en est là aujourd'hui. Et donc, on est dans une situation, effectivement, où les gens sont résignés. Mais ils ne sont pas contents. Quoi. Il y a une profonde colère. Les gens voient bien que c'est une mauvaise réforme qui va se faire à notre détriment d'enseignants et au détriment de nos élèves. Donc personne n'accepte cette réforme. personne, aucune organisation syndicale, même les plus réformistes, même les plus enclines à se coucher devant le gouvernement. Aucune ne les accepte. Ceci étant dit, on arrive. C'est vrai, les collègues sont résignés. Quoi. Voilà, comment faire pour échapper à ça? Et pour l'instant, nous, on n'a pas trouvé le levier pour les faire sortir massivement. Une réforme pareille, ça devrait provoquer, on n'aura pas quelques milliers dans les rues, on aura des centaines de milliers. Quoi, parce que c'est la mise à mort des lycées professionnels. Voilà. Et ça, tout le monde en est conscient.
Tu parles de mise à mort des lycées professionnels, tu parles de guerre contre les classes populaires. Pour revenir un peu sur les gilets jaunes aussi, souvent ce qui était pointé du doigt, c'est Macron et sa politique. Est-ce que tu as l'impression aussi que dans les collègues qui t'entourent, qui sont mobilisés, il y a aussi une prise de conscience que finalement Macron, il est au service de gens qui ont des intérêts capitalistes et que donc c'est pas qu'une figure politique qu'il faut viser.
Oui, non, c'est sûr, c'est le valet du capital, voilà, c'est celui qui sert leurs intérêts aujourd'hui, demain ça sera Tartampion, et avant c'était Hollande, et avant lui c'était Sarkozy, et voilà, c'est comme ça que ça fonctionne, quoi. Effectivement, ils sont toujours, quels que soient les gouvernements qu'on ait eus, ils ont tous mis en œuvre les mêmes politiques. Moi, ça fait 20 ans que je suis dans l'éducation nationale, ça fait 20 ans que je vois, sauf du temps la gauche plurielle quand même, avec le recul. Sur le coup, j'étais pas content d'eux. Mais mis en perspective avec ce qui nous est tombé dessus 20 ans, les 20 ans suivants, bon, il y avait peut-être une volonté, pas suffisante, mais il y avait une volonté de faire autrement. Mais tous les gouvernements qu'on a eu depuis 2002, on n'a affaire qu'à des gouvernements libéraux. Et après, ça se décline. Voilà, c'est plus ou moins libéral, mais c'est toujours le même rouleau compresseur libéral qui s'applique. Il faut faire des économies. La fonction publique, ça coûte cher. Voilà. Et dans le même temps, on a nos amis milliardaires qui, eux, s'enrichissent au tractopelle. Il y a un mec à lui tout seul, Bernard Arnault, il a 73 milliards d'euros. Alors, il va falloir qu'on lui pose la question, qu'est-ce qu'on fout avec 73 milliards d'euros? C'est quasiment deux fois le budget de l'éducation nationale. Voilà, c'est le budget de l'éducation nationale plus celui de la défense. Quoi. Voilà, ça devient même dangereux. Quoi. On a affaire à des individus qui pourraient à eux tout seuls lever des armées. Quoi. Voilà. Donc il faut se poser la question, est-ce que c'est bien légitime qu'un individu, à lui tout seul, il ait de telles masses financières à son service qu'on remplit encore, parce que Macron lui a fait cadeau en plus de 5 milliards d'ISF. Voilà, il faut vraiment se poser les bonnes questions. Et effectivement, l'argent, il est là. On nous dit toujours, il faut attendre le retour de la croissance. La croissance, il n'y en aura plus, j'espère. Parce qu'on détruit la planète avec la croissance. Par contre, il y a des richesses. Il faut les redistribuer, il faut les partager, elles sont là. Il y a juste à les redistribuer. On va taper dans les caisses de M. Arnault, il faut le dire clairement. Quoi. C'est là qu'il est le pognon, il n'est pas l'heure. C'est là qu'il faut aller le chercher. Voilà. Et ça, effectivement, ça va nécessiter d'être plus nombreux que les mobilisations du samedi. Il va falloir que ça dure plus longtemps.
Alors, les collègues, ils mettent beaucoup de temps avant de comprendre, alors pas de comprendre, mais d'assimiler, d'intégrer le fait que ce qu'ils lisent, ce qu'ils voient, ça peut entrer dans la réalité de leur professionnel. Ils mettent beaucoup de temps, c'est toujours comme ça. Et donc, il faut un temps de prise en compte, de prise de conscience avant qu'ils puissent passer à l'action et rentrer dans la grève, rentrer dans les manifestations. C'est un travail de longue haleine qu'on a engagé nous depuis longtemps et qui commence depuis le mois de mars à produire des résultats. Et on sait très bien qu'il faudra qu'on agisse sur la durée. Et c'est pour cela que, par exemple, nous, au SNES, on a déjà prévu d'autres échéances jusqu'au mois de juin, à savoir qu'on a consulté on consulte la profession en ce moment même. On est majoritaire, donc on a lancé une consultation qui permet de se prononcer sur une éventuelle grève des examens, de la surveillance des examens, avec d'abord le bac et à fin du mois de juin le diplôme du brevet. Donc on se projette déjà sur d'autres journées. On sait que c'est un gouvernement qui ne lâchera pas simplement sur une journée de mobilisation, on le sait très bien, et on ne le cache pas aux collègues d'ailleurs. On leur dit, voilà, il y a ça. À l'occasion de ces journées, on informe, on diffuse du matériel, des vidéos, des visuels, des tracts explicatifs. On sait que le temps que ces éléments-là soient assimilés, eh bien, à côté de ça, on prévoit des dates. Et en juin, on sait déjà qu'il y aura quelque chose. Donc là, on espère avec le 9 mai pouvoir, aujourd'hui, au soir du 9 mai, pouvoir engager les collègues dans la manif du 18 à Paris. Et à la suite de la manif de Paris, si elle est réussie comme on le souhaite, on pourra encore projeter d'autres journées d'enforts de mobilisation.
Eh ben c'est qu'on est dans une société très individualiste et qu'on a parfois un peu de mal à mobiliser ou à faire prendre conscience ou que les gens prennent conscience mais qu'ils se disent qu'il y a pire qu'eux et que ça c'est un peu dramatique parce que je pense que du jour au lendemain on peut être dans le pire quoi et que voilà les gens ne se mobilisent ou ne prennent conscience des choses que quand ils sont vraiment dans des situations critiques quoi et ça c'est et où on n'a plus l'énergie parfois pour rebondir. Donc je me dis qu'il faut le faire tant qu'on est encore tant qu'on a encore l'énergie pour le faire. Voilà.
Et vous attendez quoi un peu de cette manif? Est-ce que il y a une suite à ça? Est-ce que c'est un moment finalement juste une journée qui sert à se retrouver?
Ah ben moi je suis pas ici par hasard, hein. J'y suis assez régulièrement et j'y crois toujours, hein. Je crois que, enfin, pour avoir vécu des mobilisations qui ont été porteuses, et je me dis qu'aujourd'hui avec ce qui se passe autour des gilets jaunes aussi et voilà les rassemblements, au plus on est nombreux, au plus on arrive à obtenir des choses, mais je pense qu'il faut surtout pas les arrêter, quoi, parce que c'est aussi encore un moyen de pression qu'on a sur nos politiques. Voilà, et j'y crois.
Sur cette journée, on attend de voir si en 2022, il y a la loi santé 2022, si on va aller jusqu'au bout, et on espère qu'on n'ira pas jusqu'au bout parce que justement, ce sera la restriction des budgets et des postes. Et nous qui sommes une petite structure, on est que 218 salariés, aujourd'hui on est là aussi pour se montrer, pour dire qu'on existe et que les petites structures ne sont pas des zones de non-droit. Parce qu'on fait des petites structures, hein, des zones de non-droit.
Vous avez l'impression que les gens, vos collègues, se mobilisent, qu'il y a une prise de conscience?
Oui,
un peu?
Bien sûr. Hein. Nous, ici, sur un petit centre hospitalier, sur 56 soignants, on en a 6. Donc, c'est pas mal.
Alors, au niveau de la manif, je suis agréablement surpris. Il y a beaucoup de monde, je trouve, par rapport à d'habitude. Bon, c'est aussi une intersyndicale, ça regroupe 9 syndicats, interprofessionnels en plus. Hein, d'habitude, je viens plutôt sur les manifestations d'enseignants. Donc c'est plutôt encourageant que les gens se bougent un peu. Concernant mes collègues, ils ne sont pas très nombreux à se mobiliser, que ce soit pour les grèves enseignantes comme pour les grèves pour la fonction publique. Le problème, c'est que les différents gouvernements ont mis en place le gel du point d'indice des fonctionnaires. Donc au niveau salaire, c'est compliqué pour certains de mes collègues. Et puis après, ils ont tous des crédits pour la maison, pour la voiture. Donc je comprends que perdre une journée de salaire pour venir contester, c'est pas facile pour tout le monde. Alors, les fonctionnaires sont payés en fonction d'un nombre de points qui augmentent au gré de leur carrière. Et le point d'indice sert de référence au calcul du salaire. Donc, on multiplie leur nombre de points par ce point d'indice, hein, qui permet de calculer le salaire brut final. Et le fait d'avoir bloqué ce point d'indice, ça bloque tous les salaires depuis une dizaine d'années maintenant, pratiquement. Donc les salaires n'augmentent plus trop. Alors on augmente quand même parce qu'on change d'échelon, on peut monter dans les catégories. Mais si on compare avec nos collègues de la fonction publique, nous sommes des cadres A de la fonction publique, donc c'est plus haut niveau de la fonction publique. Les professeurs sont parmi les moins bien payés de la fonction publique à niveau équivalent. Et si on compare avec les pays de l'OCDE, ou même on fait partie aussi des moins bien payés, des profs les moins bien payés. Par exemple, un prof allemand ou irlandais gagne pratiquement le double. Et au Luxembourg, c'est pratiquement 10 fois plus que nous, à échelon égal. Hein.
On nous reproche toujours de ne pas travailler assez, de ne pas être assez nombreux. Et alors nous, on crève au boulot et nos jeunes, ils crèvent aux chambres nues, quoi. À un moment donné, il y a un truc qui colle pas, quoi. Les gens, ils trouvent pas de boulot, ils ont des compétences. Le niveau scolaire en France n'a jamais été aussi élevé qu'aujourd'hui. Et les jeunes n'arrivent pas à trouver de travail. Et les vieux non plus. Et on va nous forcer à rester au boulot jusqu'à ce qu'on en crève pour laisser crever les jeunes au chômage. À un moment donné, voilà, il y a besoin que nous, on parte à la retraite en âge. Nous, à la CGT, on revendique les 60 ans avec 37 annuités et demi. Voilà, c'est la revendication de la CGT. Et 55 ans pour les métiers pénibles. Moi, je partage tout à fait cette parce que c'est comme ça qu'on crée les emplois. Comme ça qu'on crée les emplois, en laissant partir les vieux à la retraite, par les enfermant dans les boîtes, là où on n'a plus rien à faire, quoi. Un mec à la chaîne chez Renault à 60 balais. Enfin, voyons, c'est pas sérieux, quoi. Il y est plus, d'ailleurs. Ils y sont plus. Mais... Non, ouais, puis ils y sont plus, alors on les vire, on les fout dehors pour raison de santé, on les lourde, et après ils finissent leur carrière avec quelques centaines d'euros alors qu'ils ont bossé toute leur vie, quoi. Et ça impacte aussi les retraites de ces gens-là. Voilà, donc ça n'a aucun sens de repousser indéfiniment l'âge de la retraite ou les années de cotisation, parce que l'entourloupe elle est là. On va pas toucher 62 ans, mais si tu commences pas à travailler à 12 ans, t'auras jamais ta retraite à 62 ans, quoi. Voilà, l'arnaque elle est là, quoi. Donc faut être très vigilant là-dessus, ça va nous tomber dessus d'ici une semaine ou deux, on va le prendre dans la tronche. Il faut qu'on soit vigilant là-dessus. Et c'est la même logique néolibérale, la même logique ultralibérale, de faire la peau et les poches aux pauvres pour enrichir les riches, quoi. Et c'est cette logique-là dont il faut qu'on sorte, parce que l'argent, il est là, il faut le redistribuer. Redistribuer les richesses, il n'y a pas besoin de les créer, elles sont là, on les a sous la main. Il n'y a qu'à les redistribuer.
Oui, je suis hospitalier, je suis militant du Parti ouvrier indépendant démocratique et on mène une campagne pour l'unité, pour le retrait du projet de retraite à points que Macron veut instaurer dès juillet, puisqu'il y a un projet de loi qui est en préparation, et puis installé en 2020. Macron et puis Delevoye, qui est son haut-commissaire chargé de cette réforme, l'ont déclaré, ils veulent, en réponse aux exigences de l'Union européenne, économiser des milliards et des milliards sur le budget de la retraite, et chaque année 5 milliards. Et donc avec cette retraite à points, il va être installé les comptes épargne retraite, comme il y a déjà actuellement, mais ça va être boosté encore plus. Et donc ceux qui auront de l'argent pourront se épargner dans le cadre des fonds de pension, et puis ceux qui n'auront pas d'argent à mettre de côté et qui auront des salaires trop faibles, ils devront travailler à 62, 63, 64, 68 ans. Et donc, il y aura, s'ils veulent toucher quelque chose. Et c'est même Delevoye lui-même qui l'a déclaré dans ses déclarations récentes. Il a dit, vous pouvez partir quand vous voulez, mais vous aurez la retraite. C'est vous qui allez calculer vous-même votre retraite, quoi. Donc, c'est très grave.
C'est ce que j'allais dire. J'ai l'impression que ça rejoint un peu les déclarations qu'Edouard Philippe faisait il n'y a pas longtemps, où ça avait l'air un peu flou. Finalement, il disait non, on ne veut pas augmenter l'âge de la retraite, mais par contre, sachez que si vous voulez en gros une retraite à taux plein, ça voudra dire une sorte de sacrifice en travaillant plus. C'est un peu ça la logique qui est menée.
Tout à fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont beau jeu de laisser la retraite, l'âge limite de retraite à 62 ans, personne ne pourra partir à 62 ans. Et d'ores et déjà maintenant, il y a plein de gens qui ne partent pas à 62 ans. C'est ça en fait le fond du problème, c'est que le budget des retraites, ça représente 300 milliards d'euros. Et donc, ça échappe actuellement à la spéculation, parce que c'est des fonds qui sont répartis immédiatement. Les actifs cotisent pour les retraités et puis ceux qui sont sans emploi. Mais maintenant, le système de solidarité va être complètement supprimé. Ce serait une retraite individuelle. Et je pense que seule la grève générale dans l'unité de tous les travailleurs et toutes les organisations permettra de faire reculer Macron. Parce qu'il y a trop d'éparpillement, il y a trop de confusion actuellement. Et cette question de la retraite à points doit permettre de s'unir sur des questions claires et nettes sur l'exigence du retrait de ce projet de retraite à points.
À quand la grève générale ? À quand la grève générale et mondiale ? Ce moment où tout vit, tout se lit, tout se dit, tout se pense, tout se danse, tout s'écrit.
Cet instant suspendu qui enflamme les rues, qui déchaîne les âmes et les culs.
Cette période bleue comme un soleil radieux qui éclaire l'avenir de ces feux.
Ces minutes volées aux tristes sabliers des accapareurs de destinée.
À quand la grève générale ? À quand la grève générale et mondiale ? À quand la grève générale ? À quand la grève générale et mondiale ?
Ce moment vérité qui va faire brûler nos certitudes sur un bûcher.
Cet instant destructeur explicitant les leurs qui nous faisait croire au malheur.
Cette période jaune comme robe de nonne virevoltant au vent facétieux.
Ces minutes en panne, ces heures qui se pavanent, ces semaines à se prendre pour Dieu.
À quand la grève générale ? À quand la grève générale et mondiale ? À quand la grève générale ? À quand la grève générale et mondiale ?
Ce moment utopique ou joyeuse rythmique annoncé par nos cœurs unanimes.
Cet instant généreux comme cesser le feu dans les tranchées de nos égoïsmes.
Cette période mauve comme geste qui sauve dans la noirceur apocalyptique.
Cette heureuse étrangère, ces journées d'une autre ère qui se rit de la course atomique.
Attends.